Bonsoir, vous êtes sur fréquencemistral.com dans l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Elle avait pour nom Belli Sacrepusculario, non par certificat de baptême ou trouvaille maternelle, mais parce qu'elle-même l'avait cherché jusqu'à tomber dessus et s'en était affublée. Elle faisait métier de vendre des mots. Elle sillonnait le pays, des régions les plus hautes et froides jusqu'aux littoraux brûlants, s'installant dans les foires et sur les marchés, où elle montait quatre piquets et une toile de tente, sous laquelle elle se protégeait du soleil et de la pluie en attendant sa clientèle. Elle n'avait nul besoin de bonimenter, car à tant aller par monts et par veaux, tout le monde la connaissait. Il y en avait qui guettaient sa venue d'une année sur l'autre, et quand elle apparaissait au village, avec son attirail sous le bras, il faisait queue devant son éventaire. Ses tarifs étaient justes. Pour 5 centavos, elle récitait des vers par cœur. Pour 7, elle améliorait la qualité des rêves. Pour 9, elle écrivait des lettres d'amour. Pour 12, elle inventait des insultes destinées aux ennemis irréconciliables. Elle vendait aussi des histoires, mais il ne s'agissait pas d'affabulation. Plutôt, de longues et véridiques histoires qu'elle débitait d'une traite sans rien en omettre. Ainsi colportait-elle les nouvelles d'une bourgade à l'autre. Les gens la rémunéraient pour y ajouter la valeur d'une ou deux lignes. Un petit est né, un tel est mort, nos enfants se sont mariés, les récoltes ont brûlé. En chaque lieu, une petite foule s'assemblait autour d'elle dès qu'elle commençait à parler, s'informant de la sorte sur la vie des autres, le sort de parents éloignés, les péripéties de la guerre civile. À ceux qui pouvaient mettre 50 centavos, elle offrait un mot secret capable de dissiper la mélancolie. Ce n'était évidemment pas le même pour tout le monde, c'eût été une escroquerie généralisée. Non, chacun recevait le sien en étant sûr que personne d'autre n'en usait à cette fin dans l'univers entier et même au-delà. Belli Sacrepusculario avait vu le jour dans une famille si misérable qu'elle ne disposait même pas de prénom pour en doter ses enfants. Elle était née et avait grandi dans la province la plus inhospitalière, où les pluies se transforment certaines années en avalanches liquides qui emportent tout, et où certaines autres, pas une seule goutte ne tombe du ciel. Le soleil s'élargit jusqu'à occuper tout l'horizon et le monde se change en désert. Jusqu'à l'âge de 12 ans, elle n'eut d'autre occupation ni d'autre loi que de survivre à cette faim et à cette lassitude séculaire. Au cours d'une interminable période de sécheresse, il lui échut d'enterrer 4 de ses jeunes frères. Et quand elle comprit que son tour à elle arrivait, elle résolut de se mettre en marche à travers plaine, en direction de la mer, pour voir si au fil de ce voyage, elle parviendrait à déjouer la mort. La terre était érodée, coupée de profondes crevasses, semée de caillasses, d'arbres et d'épineux fossilisés, de squelettes de bêtes blanchies par la chaleur. De temps à autre, elle rencontrait des familles qui cheminaient comme elle vers le sud, attirées par le mirage de l'eau. Certains s'étaient mis en route en emportant tous leurs biens sur leur dos ou dans des charrettes, mais c'est à peine s'ils pouvaient déplacer leurs propres os et au bout de quelques pas, ils devaient abandonner leurs affaires. Ils se traînaient péniblement, l'épiderme transformé en peau de lézard, les yeux brûlés par la réverbération du soleil. Mélissa les saluait au passage d'un simple geste sans s'arrêter, car elle ne pouvait gaspiller ses forces en démonstration de compassion. Nombreux furent ceux qui tombèrent en chemin, mais elle était si opiniâtre qu'elle réussit sa traversée de l'enfer et atteignit enfin les premières sources, minces filets d'eau presque invisibles qui abreuvaient une végétation rachitique, avant de se transformer plus loin en vagues rigoles puis en bourbiers. Bellissa Crepusculario eut ainsi la vie sauve, et le hasard voulut qu'elle découvrît de surcroît l'écriture. À son arrivée dans un village à proximité du littoral, le vent déposa à ses pieds une page de journal. Elle ramassa ce papier jaunâtre, friable, et resta un long moment à l'examiner, sans en deviner l'usage, jusqu'à ce que la curiosité l'emporta sur sa timidité. Elle s'approcha d'un homme qui étriait son cheval dans la même flaque boueuse où elle étanchait sa soif. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-elle. « La page sportive du journal, » répondit l'homme, sans montrer le moindre signe d'étonnement devant son ignorance. La réponse laissa la fillette interdite, mais elle ne voulut point paraître effrontée et se borna à se renseigner sur la signification des pattes de mouche dessinées sur le papier. « Ce sont des mots, ma petite. Là, par exemple, il est écrit que Fulgencio Barbo a mis KO le noir Rinazzo au troisième round. » Bellissa Crepusculario comprit ce jour-là que les mots allaient en liberté, sans appartenir à personne, et qu'avec un peu d'adresse, n'importe qui pouvait se les approprier pour en faire commerce. Considérant sa situation, elle en déduisit qu'hormis se prostituer ou s'employer comme souillon dans les cuisines des riches, bien peu nombreuses étaient les activités qu'elle pouvait exercer. Vendre des mots lui parut une alternative décente. Dès cet instant, elle se lança dans ce métier et jamais aucun autre n'éveilla son intérêt. Au début, elle proposait sa marchandise sans même soupçonner que les mots pouvaient également s'écrire ailleurs que dans les journaux. Quand elle s'en avisa, elle mesura les perspectives infinies de son affaire, préleva sur ses économies 20 pesos qu'elle versa à un curé pour qu'il lui apprît à lire et à écrire, et avec les 3 qui lui restaient, elle fit l'emplette d'un dictionnaire. Elle le compulsa de A jusqu'à Z, puis elle le jeta à la mer, car elle n'avait nullement l'intention de flouer sa clientèle avec des mots de conserve. Quelques années plus tard, un matin d'août, Bellissa Crepusculario se trouvait au beau milieu d'une place, assise sous sa toile de tente, à vendre des arguments de justice à un vieillard qui réclamait en vain sa pension depuis quelque 17 ans. C'était jour de marché et un grand tohu-bohu régnait autour d'elle. Tout à coup, on entendit des galops et des cris, ses yeux se détachèrent des mots, pour découvrir en premier lieu un nuage de poussière, puis une petite troupe de cavaliers qui avait envahi l'endroit. Il s'agissait des hommes du colonel, placés sous les ordres du mulâtre, un géant connu dans toute la région pour la célérité de son couteau et sa fidélité à son chef. L'un comme l'autre, le colonel et le mulâtre, avaient consacré toute leur existence à la guerre civile et leur nom était irrémédiablement associé au fracas des calamités. Les guerriers avaient fait irruption dans le village comme une meute lancée à fond de train, suants et tumultueux, semant sur leur passage la terreur des siphons. La poulaille s'égaya en battant des ailes, les chiens filèrent se perdre on ne sait où, les femmes s'enfuirent avec leur progéniture, et il ne resta bientôt plus sur la place âme qui vive, en dehors de Bellissa Crepusculario, laquelle n'avait encore jamais rencontré le mulâtre, et pour cette raison même, fut toute surprise qu'il s'adressât à elle. « C'est toi que je cherche !» hurla-t-il à son intention, en pointant sur elle son fouet enroulé, et avant qu'il n'eût fini de prononcer ces mots, deux hommes fondirent sur la file, jetant à bas sa tente et brisant son encrier, lui ligotant les mains et les pieds, et la jetant comme un sac de matelot en travers de la croupe de la monture du mulâtre. Puis ils s'enfuirent au grand galop en direction des collines. Quelques heures plus tard, alors que Bellissa Crepusculario était sur le point de rendre l'âme, le cœur changé en sable par le cahotement de la course, elle sentit qu'on faisait halte et que quatre poignes puissantes la déposaient à terre. Elle voulut se mettre debout et relever le front avec dignité, mais elle avait présumé de ses forces et elle s'effondra dans un soupir, sombrant dans quelques rêves obscurs. Elle ne se réveilla qu'au bout de plusieurs heures avec les murmures de la nuit rayant sur le campement, mais elle n'eut pas le loisir de déchiffrer ses sons. En rouvrant les yeux, elle se retrouva sous le regard impatient du mulâtre, agenouillé près d'elle. « Tu te décides enfin à te réveiller ? » dit-il en lui tendant sa gourde pour qu'elle avalât une gorgée d'eau de vie mêlée de poudre et finit de revenir à elle. Elle s'enquit de la cause de tant de rudoiements et lui expliqua que le colonel avait besoin de ses services. Il l'autorisa à s'humecter le visage, puis la conduisit aussitôt à l'autre bout du campement, où l'homme le plus redouté du pays se reposait dans un hamac suspendu entre deux troncs. Elle ne put discerner ses traits, dissimulés par l'ombre mouvante du feuillage et par celle indélébile de si nombreuses années passées à vivre en hors-la-loi, mais à voir l'humilité avec laquelle s'adressait à lui son colossal aide-de-camp, elle se figura l'expression de mauvaiseté qui devait s'en dégager. Elle fut d'autant plus surprise par sa voix douce et bien modulée, semblable à celle d'un professeur. « Tu es la marchande de mots ?» lui demanda-t-il. « Pour te servir, » murmura-t-elle en sondant la pénombre pour mieux l'entreapercevoir. Le colonel se leva et le faisceau de la torche que portait le mulâtre l'éclaira en plein visage. La jeune femme découvrit son teint crépusculaire et son regard altier de puma, et elle sut d'emblée qu'elle se trouvait en présence de l'homme le plus seul au monde. « Je veux devenir président, » lui dit-il. Il était là de sillonner cette terre maudite, au gré de combats inutiles et de défaites qu'aucun subterfuge ne parvenait à transformer en victoire. Cela faisait nombre d'années qu'il dormait à la belle étoile, piqué par les moustiques, se nourrissant de chair d'iguane et de bouillon de couleuvre, mais ces menus inconvénients ne constituaient pas une raison suffisante pour changer de destin. En vérité, ce dont il avait assez, c'était de lire la peur dans le regard des autres. Il aurait aimé entrer dans les villages sous des arcs de triomphe, au milieu des oriflammes bariolées et des fleurs, qu'on l'acclame et lui fasse présent d'œufs frais et de pain sorti du four. Il n'en pouvait plus de voir sur son passage les hommes prendre leurs jambes à leur cou, les enfants trembler, la frayeur faire avorter les femmes, et c'est pourquoi il avait décidé de devenir président. Le mulâtre lui avait suggéré de foncer sur la capitale et de forcer l'entrée du palais au grand galop afin de s'emparer du pouvoir, tout comme il s'était approprié bien d'autres choses sans demander jamais la permission à personne, mais le colonel se refusait à n'être qu'un tyran de plus, comme il y en avait déjà tant sous ses latitudes, sans compter que ce n'était pas la meilleure façon d'attirer l'affection des gens. Il avait dans l'idée de se faire désigner par un vote populaire à l'issue des assemblées électorales de décembre. « Pour cela, j'ai besoin de m'exprimer comme un candidat. Peux-tu me vendre les mots dont on fait un discours ?» demanda le colonel à Bellissa Crepusculario. Elle avait accepté bien des commandes, mais aucune qui ressemblât à celle-ci. Cependant, elle ne s'estima pas en situation de refuser, craignant que le mulâtre ne lui tirât une balle entre les deux yeux, ou pis encore que le colonel ne se mît à pleurer. Au demeurant, elle éprouvait un profond désir de lui venir en aide, car ce n'était pas pour rien qu'elle avait ressenti un chaud frémissement lui parcourir la peau, une puissante envie de caresser cet homme, de laisser ses mains errer sur lui, de le prendre et de le serrer dans ses bras. Bellissa Crepusculario passa toute la nuit et une bonne partie de la matinée du lendemain à chercher dans son répertoire les mots appropriés pour un discours présidentiel sous l'étroite surveillance du mulâtre qui ne quittait pas des yeux ses robustes jambes de marcheuse et ses seins virginaux. Elle écarta les mots trop rudes ou trop secs, les trop fleuris, ceux qu'un usage abusif avait fanés, ceux qui dispensaient des promesses improbables, ceux qui sonnaient faux, les confus et les ambigus, pour ne conserver que ceux qui étaient susceptibles de toucher en toute certitude l'entendement des hommes et l'intuition des femmes. Mettant à profit les connaissances qu'elle avait achetées pour 20 pesos au curé, elle rédigea la harangue sur un bout de papier, puis fit signe au mulâtre pour qu'il dénoua la corde qui la tenait attachée par les chevilles à un arbre. On la conduisit de nouveau près du colonel. À le voir, elle ressentit la même bouffée de frémissant désir que lors de leur première rencontre. Elle lui remit le discours et attendit, cependant qu'il contemplait le morceau de papier qu'il tenait du bout des doigts. « Qu'est-ce que ça dit ? » finit-il par demander. « Tu ne sais pas lire ?»« Tout ce que je sais faire, c'est la guerre, » répliqua-t-il. Elle lut le discours à voix haute. Elle le lui relut deux fois encore, afin que son client pût le graver dans sa mémoire. Quand elle eut terminé, elle découvrit l'émotion qui se peignait sur le visage des hommes rassemblés pour l'écouter, et elle remarqua que l'enthousiasme faisait briller les yeux jaunes du colonel, convaincu qu'avec de telles paroles, le fauteuil présidentiel ne pouvait lui échapper. Si après l'avoir entendu trois fois, les gars restent encore la bouche ouverte, c'est que ce truc a du bon, colonel, opina le mulâtre. « Combien je te dois pour ton travail ?» demanda le chef. « 1 peso, colonel. » « Ce n'est pas cher, » fit-il en entr'ouvrant la bourse qu'il portait pendue à son ceinturon, refermant les restes de son dernier butin. « En prime, tu as droit à un cadeau. Il te revient 2 mots secrets, » lui dit Bellissa Crepusculario. « Comment ça ?» Elle s'employa à lui expliquer que pour chaque paiement de 50 centavos, elle offrait au client un mot de son usage exclusif. Le chef haussa les épaules, car il se moquait bien de ce genre de présent, mais il ne souhaitait pas se montrer discourtois vis-à-vis de quelqu'un qu'il avait si bien servi. Elle s'approcha alors sans hâte du siège en cuir de vache sur lequel il trônait et se pencha pour lui transmettre son cadeau. À ce moment-là, l'homme eut mal l'odeur de bête des bois qui émanait de cette femme. Il sentit la chaleur de fournaise que dégageaient ses hanches, le terrifiant frôlement de sa chevelure, la laine de menthe sauvage qui susurrait à son oreille les 2 mots secrets auxquels il avait droit. « Ils sont à toi, colonel, » lui lança-t-elle en s'éloignant. « Tu peux t'en servir quand il te semblera bon. » Le mulâtre raccompagna Bellissa jusqu'à l'orée du chemin, sans cesser de la contempler avec ses yeux implorants de chien perdu. Mais lorsqu'il tendit la main pour la toucher, elle arrêta son geste d'un flot de vocables inventés qui eurent le don de chasser en lui tout désir, car il crut qu'il s'agissait d'une de ces malédictions sur lesquelles il est impossible de revenir. Durant les mois de septembre, octobre et novembre, le colonel prononça le discours un si grand nombre de fois que s'il avait été confectionné de mots flambant neufs et garantis durables, l'usage l'aurait eu au fait de le réduire en cendres. Il parcourut le pays en tous sens, multipliant les entrées triomphales dans les villes, mais s'arrêtant également dans les hameaux les plus reculés, là où seules quelques traces d'immondices révélaient une présence humaine, pour convaincre le corps électoral de lui apporter ses suffrages. Tandis qu'il parlait, juché sur une estrade au milieu de la place, le mulâtre et ses hommes distribuaient des bonbons et peignaient son nom sur les murs à l'aide d'une sorte de givre dorée, mais nul ne prêtait qu'à ses artifices de camelot, car tous étaient éblouis par la clarté de ses propositions et l'éclat poétique de son argumentation, gagnés à leur tour par son formidable désir de corriger les erreurs de l'histoire et, pour la première fois de leur vie, se laissaient aller à la joie. Au terme de la harangue du candidat, la petite troupe tirait des coups de pistolet en l'air, allumait des pétards, et lorsqu'il finissait par se retirer, il laissait derrière eux un sillage d'espoir qui restait de nombreux jours à planer dans l'air comme le somptueux souvenir d'une comète. Le colonel devint vite l'homme politique le plus populaire du pays. C'était un phénomène jamais vu que cet homme surgit de la guerre civile, couvert de cicatrices et s'exprimant comme un doyen de faculté, dont le prestige gagnait peu à peu tout le territoire national, chavirant le cœur de la patrie. La presse s'occupa de lui. De loin accoururent les journalistes pour l'interviewer, reproduire ses formules, et ainsi ne fit qu'augmenter le nombre de ses partisans et de ses ennemis. « Tout va bien pour nous, colonel, » lui dit le mulâtre, au bout de 12 semaines de succès ininterrompu. Mais le candidat ne l'écoutait point. Il se répétait ses doux mots secrets, comme il lui arrivait de le faire de plus en plus souvent. Il les prononçait chaque fois que la nostalgie venait le meurtrir. Il les murmurait dans son sommeil. Il les emportait avec lui dès qu'il enfourchait sa monture. Il les méditait juste avant d'entamer son fameux discours. Il se surprenait à les savourer dans ses moments de distraction. Toutes les fois que ces deux mots lui revenaient à l'esprit, il sentait à nouveau la présence de Bellissa Crepusculario et ses sens se troublaient au souvenir de son odeur de bête des bois, de sa chaleur de fournaise, de son terrifiant frôlement, de son haleine de mande sauvage, tant et si bien qu'il se mit à aller et venir comme un somnambule, et ses propres hommes comprirent alors que sa vie tournerait court avant d'atteindre le fauteuil présidentiel. « Qu'est-ce qui t'arrive, colonel ?» l'interrogea à maintes reprises le mulâtre, jusqu'à ce qu'un beau jour, n'en pouvant plus, son chef finit par lui avouer que s'il se trouvait dans un état pareil, la faute en était à ces deux mots qu'on lui avait enfoncés dans les entrailles. « Dis-les-moi pour voir s'ils ne vont pas perdre leur pouvoir, » lui demanda son fidèle lieutenant. « Je ne te les dirai pas. Ils n'appartiennent qu'à moi, » riposta le colonel. Là de voir son chef se défaire comme un condamné à mort, le mulâtre jeta son fusil sur son épaule et s'en fut à la recherche de Bellissa Crepusculario. Il la suivit à la trace à travers l'ample géographie du pays et finit par la retrouver dans un village du sud, installé sous la toile de tente de son officine, débitant son sempiternel chapelet de nouvelles. Il se planta devant elle, les jambes écartées, l'arme au poing. « Tu viens avec moi, » ordonna-t-il. Elle n'attendait que lui. Elle ramassa son encrier, plia la toile de tente, se couvrit les épaules de son châle et monta sans mot dire sur la croupe de son cheval. Ils n'échangèrent pas le moindre signe durant tout le trajet, car le désir qu'avait d'elle le mulâtre s'était mué en rage, et seule la terreur que lui inspirait sa langue bien pendue le dissuadait de la massacrer à coups de fouet. Il n'était pas davantage disposé à lui raconter que le colonel errait comme une âme en peine et que ce que tant d'années de combat n'avaient pas réussi à faire, un sortilège sursuré à son oreille était parvenu. 3 jours plus tard, ils arrivèrent au campement et il conduisit aussitôt sa prisonnière jusqu'au colonel, devant toute la troupe rassemblée. « Je t'ai ramené cette sorcière pour que tu lui restitues ses maux, colonel, et pour qu'en retour elle te rende ta virilité, » fit-il en appuyant le canon de son fusil contre la nuque de la fille. Le colonel et Bellissa Crepusculario s'entre-regardèrent longuement, se jaugeant à distance. Mais quand elle s'avança et lui prit la main, à voir les yeux carnassiers du puma se remplir d'une infinie douceur, les hommes comprirent que leur chef ne pourrait jamais se délivrer du maléfice de ces deux maux démoniaques.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos.
Ce n'est point une bague, ô mer, c'est une rose que je condamne et livre à ton immensité. Veuille, en ta tombe éternellement enclose, bercer ce peu de grâce et de suavité. Certes, je ne viens pas, consacrant mon offrande en ma faveur, capter les dons irrésolus d'un destin que mon cœur n'invoque ou n'appréhende, ni supplier des dieux auxquels je ne crois plus. Le geste dont je lance épanouit encore cette pulpe florale et son pollen pourpré au gouffre dont aucun rameau ne peut éclore, symbolise un refus libre et désespéré. Car la fleur dont le baume eut enivré ma veille et l'amour qui voulait exalter mon destin, je les anéantis d'une chute pareille. Grande marée, à toi, cet infime butin. C'est fait. À peine un choc éclabousse la lame qui reforme et poursuit son rythme souverain. Un cadavre de fleur, une douleur de femme. Que pèse cette écume à l'infini marin.
Je sais sur le bout de la langue les aubes grises de Saint-Lô, la saveur vague des varangues éparses semant de bateaux. Les huîtres jetées sur la table, le sel pour leurrer les couteaux. La mer en chemise de sable, le havre tiède de ta peau. Je sais le creux des coquillages, oreilles fossiles des marins, les cris des vagues qui s'enragent, la tempête et ses noirs dessins, la mer qui te crache à la gueule. Je sais la mort qui va, qui vient, la manche pâle comme la salle et les abysses du chagrin. Je sais tout au fond de mon ventre les nuits de juillet à Saint-Lô. La manche remet son manteau.
Le clown, c'est le poète en action. Il est l'histoire qu'il joue. Le clown exerce sur nous un profond attrait. Juste parce qu'entre le monde et lui se dresse le rire. Son rire à lui n'a jamais rien d'homérique. C'est un rire silencieux, sans gaieté, comme on dit. Le clown nous apprend à rire de nous-mêmes. Et ce rire-là est enfanté par les larmes. Rien ne pouvait ternir l'éclat de l'extraordinaire sourire gravé dans la triste figure d'Auguste. En piste, ce sourire prenait une vertu intrinsèque, se détacher, s'amplifier, expression de l'ineffable. Au pied d'une échelle tendue vers la lune, Auguste s'asseyait, perdu dans la contemplation, sourire figé, pensée au bout du monde. Cette simulation de l'extase, portée par lui à la perfection, frappait chaque fois le public comme le summum de l'inconvenance. Le grand favori avait plus d'un tour dans son sac, mais celui-là était inimitable. Jamais aucun bouffon n'avait songé à figurer le miracle de l'ascension. De soir en soir, ils s'asseyèrent ainsi en attendant que le cheval blanc, dont la crinière ruisselait jusqu'au sol en fontaine dorée, vint doucement le mordiller. La caresse de la jument, cette tiédeur de naseau sur son cou, était comme le baiser d'adieu d'une bien-aimée, l'éveiller exquisément, comme s'anime chaque brin d'herbe sous une délicate rosée. Dans le champ du projecteur gisait, cerné, l'univers où, tous les soirs, renaissait Auguste. Ne s'y trouvaient que ces objets, ces créatures, ces êtres qui se meuvent au sein des cercles enchantés. Table, chaise, tapis, cheval, clochette, cerceau de papier et l'éternelle échelle. La lune clouée au chapiteau, une vessie de bouc. Avec quoi Auguste et ses compagnons s'arrangeaient chaque soir pour reproduire le drame de l'initiation et du martyre. Baignant dans des cercles concentriques d'ombre, s'élevait étage sur étage de visages, coupés çà et là d'espaces vides, que le rayon du projecteur léchait avec l'avidité d'une langue cherchant une dent absente. Les musiciens noyés dans la poussière et les fulgurations du magnésium se cramponnaient à leur instrument comme hallucinés, torses ondulants tels des roseaux sous un vent frémissant de jeux d'ombre et de lumière. L'homme serpent se nouait et dénouait sur un roulement de tambour en sourdine. Une fanfare de trompette annonçait la voltige. C'était la règle. Auguste, tantôt c'était un grincement mince et aigu de violon. Tantôt, une moquerie de clarinette qui suivait ses gambades pendant ses clowneries. Mais quand venait le moment d'entrer en transe, les musiciens, soudain inspirés, le pourchasser de spirale en spirale, de béatitude en béatitude, comme des destriers cloués à la plateforme d'un manège en folie. Tous les soirs, en étalant son maquillage, Auguste argumentait avec lui-même, les phoques, quoi qu'on leur demandât de faire, restaient toujours des phoques. Le cheval, un cheval, la table, une table. Auguste, lui, tout en restant un homme, était forcé de devenir quelque chose de plus, forcé de se charger des pouvoirs d'un être très particulier, au génie très singulier, forcé de faire rire le peuple, faire pleurer les gens n'était pas difficile. Ni même les faire rire, il y avait beau temps qu'il avait découvert cela. Bien avant qu'il eût seulement rêvé de cirque. Cependant, Auguste avait de plus hautes aspirations. Il désirait faire à ses spectateurs le don d'une joie qui se révéla impérissable. C'était une idée fixe qui lui avait inspiré son numéro de feinte extase sur la chaise au pied de l'échelle. C'était par pur hasard qu'il était tombé en transe. Apparemment, il avait oublié ce qu'il était censé de faire à ce moment-là. Quand il avait repris ses sens, tant soit peu affolé et terriblement inquiet, il s'était aperçu qu'on l'applaudissait frénétiquement. Le lendemain soir, il répéta l'expérience, délibérément cette fois, tout en priant que ce rire rauque et idiot qu'il suscitait si facilement cédât la place à la sublime joie qu'il brûlait tant de communiquer. Mais chaque soir, malgré la ferveur presque de ses efforts, le même délire d'applaudissement l'attendait. Plus elle avait de succès, sa petite pasquinade au pied de l'échelle, plus sa ferveur le brûlait. De soir en soir, les rires devenaient une souffrance, lui faisaient de plus en plus mal aux oreilles. À la fin, cela devenait intolérable. Et une nuit, les rires se changèrent brusquement en brocards et en sifflets. Les chapeaux suivirent, et les peaux d'orange ou de banane et d'autres projectiles plus solides. Le coup était raté. Auguste n'était pas revenu. 30 minutes, le public l'avait attendu. Puis un malaise l'avait gagné. Puis la méfiance. Et finalement, les nerfs avaient craqué. Et cela avait donné cette explosion furieuse de dérision. Quand Auguste reprit connaissance dans sa loge, il fut stupéfait de voir un médecin penché sur lui. Sa figure, sa tête étaient toutes tailladées et meurtries. Le sang s'était coagulé par-dessus le maquillage. Le masque déformé était méconnaissable. On eût dit Dieu sait quoi, laissé là sur le billot d'un boucher. Son contrat rompu net, Auguste s'enfuit du monde qu'il connaissait. N'ayant nul désir de reprendre sa vie de clown, il se mit à errer ça et là. L'artiste était détruit. Le clown, c'est le poète en action. Il est l'histoire qu'il joue, comme toi, comme moi, justement parce qu'entre le monde et lui se dresse, comme toi, comme moi, le rire. La vie passe au dehors et sa vitesse est celle de la lumière. Les deux mains sur un globe de papier transparent, contemplant les flocons d'encre noire qui tombent à l'intérieur, il épouse la vitesse plus considérable encore de la lenteur. Il regarde, impassible, les blocs du temps pur venus d'un ciel sans profondeur. Éloge de l'immobile, supplique du muet. Les noms possibles du lecteur, méditant par grand froid, allez, mâche le vent, creuse l'azur, songe blanc, passeur, hirondelle du ras de la page. Sur le cœur nu du lecteur courent des lézards avec un brin d'encre. Il fait chanter les cigales et retourne chaque mot, chaque pierre, dans le secret espoir d'y découvrir son nom. Il trouve ainsi le nom de toute chose, mais jamais le sien. Jamais, comme il était pourtant promis dans ce feuillet de l'Apocalypse de Jean, arraché par l'orage, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou, un nom nouveau que personne ne sait, sinon celui qui le reçoit. L'histoire que tu vis, celle de chaque jour, est simple, donc incompréhensible. Aucun livre n'en fait mention. Aucune lanterne de papier ne l'éclaire. Regarde, l'essentiel est dans ce que tu oublies et qui se tient devant toi. C'est par l'infime que tu trouveras l'infini, par ce calme regard sur l'ombre bleue, peinte sur une tasse de porcelaine blanche. L'âme sans doute est imprégnée de cette couleur ainsi que de lambeaux de vieux français et de chants anonymes éternels comme l'aurore, celle qui chaque jour se lève. Frêle rivière de sang. Elle va dans la chambre nuptiale du cœur, elle se cogne aux parois, elle s'enfuit dans les landes de la chair, elle se perd dans les feuillages des nerfs, elle retourne à nouveau dans la chambre d'or, elle brille et fait son lit dans tes rêves. Veille devant la page irriguée par une encre rouge. La moindre distraction, en dehors comme au-dedans, provoquerait le tumulte des pierres et l'assèchement de la vie. Dans la fortune d'une solitude, le monde diminue et tu grandis. Et c'est là le premier cercle qu'il te faudra un jour quitter, nouant ton âme à celle du feu, triompher du monde. C'est triompher de bien peu et le plus dur reste à entreprendre. Tout est à entreprendre dans cette vie, là, maintenant, devant toi, rangé dans des silences égaux, les mots de la soif qui, seuls, désaltèrent. Prends garde à la rumeur qui couronne le rêveur. Le monde ne reconnaît rien que pour aussitôt le compromettre. Redoute ceux qui, pour te louer, t'appellent à la fenêtre. Celui-là n'est pas solitaire. Dans tout se connaissent la retraite. Crains les bienveillants. Un seul conseiller est plus néfaste au prince que 1000 armées ennemies. Éloigne-toi, plus loin encore, plus loin sans cesse. Là où tu vas, plus de miroir sur la page, plus aucun nom sur la couverture. Les rêveurs des grands chemins, les solitaires dont le visage est une flamme, ils marchent lentement dans le soir qui descend. Leur corps est déboîté du côté de l'âme. Leurs bras sont grands ouverts et le vent les devance, faisant s'incliner les blés en livrée de fête. Accueil à ce qui va. Ils ne se nourrissent de rien, sinon de miettes hasardeuses tombées du ciel, d'un livre, d'un semis de lumière, oublié dans l'épaisseur de l'encre, de quoi réjouir les cigales et charmer le silence. Lisant une vie des troubadours et laissant venir du fond blanchi de la page, les hommes de peu, pèlerins d'insouciance, ils traversent l'eau des siècles, ils entrent dans la chambre avec, dans la lumière matinale de leurs yeux, l'éclat de fleurs sauvages et dans leurs mains rudes le pollen d'une chanson. S'il voyait venir vers lui un homme de cour, il devenait triste et malheureux. Dehors, c'est un ciel brûlé dont plus rien ne témoigne que la couleur bleue, unique souci. Dedans, c'est la terre jeune et sombre des lectures. Tout volet clos, passe le colporteur, plongeant ses mains dans l'eau glacée d'un texte. Il saisit un ange par les ouïes, il jette sur la berge d'une pensée des napperons de dentelle, des gravures outre-mer et des herbes miraculeuses. Tu regardes, tu soupèses, tu choisis, tu t'inquiètes du prix de ce collier d'une transparence rare. Mais sais-tu qu'il est façonné par le bon Jean de La Fontaine, le long d'un clair ruisseau, buvait une colombe, riant dans tes larmes, pleurant dans tes rires. La vie pousse devant elle le cerceau de tes jours. Le feu qu'elle ranime, c'est toi tout entier recueilli dans le peu de mots. C'est toi tout entier, les mots, c'est toi. L'amour frappe ses hôtes de stupeur lorsque pour eux il fragmente les sources et partage les lumières. Que la blancheur de la page soit celle de la table à laquelle tu seras un jour convié. Si nous considérons notre vie dans son rapport au monde, il nous faut résister à ce qu'on prétend faire de nous. Refuser tout ce qui se présente, rôle, identité, fonction, et surtout ne jamais rien céder quant à notre solitude et à notre silence. Si nous considérons notre vie dans son rapport à l'éternel, il nous faut lâcher prise et accueillir ce qui vient, sans rien garder en propre, d'un côté tout rejeter, de l'autre consentir à tout. Ce double mouvement ne peut être réalisé que dans l'amour, où le monde s'éloigne, en même temps que l'éternel s'approche, silencieux et solitaire. Dans tout ce que nous faisons, nous ne faisons qu'attendre. Et c'est par impatience que nous mettons entre nous et notre attente, une poussière de volonté et de désir, seulement par impatience. La misère dont témoignent nos attachements n'est pas à reprocher à l'amour. Il vaudrait mieux se demander ce qui nous rend si difficile d'aimer quelqu'un sans aussitôt l'attacher à notre sort. Ce qui revient à se demander pourquoi il nous est si difficile d'aimer. L'amour est détachement. Oubli de soi, nous ne pouvons y parvenir par nos propres forces, car toutes nos forces sont constamment employées à agglomérer le monde en surface de notre moi. Qui sait nous donner une joie aussi pure que celle prodiguée par la vue d'un petit nuage blanc dans le ciel bleu ? Telle est la question. La fatigue est en nous comme une pierre, et si nous pouvons l'enlever d'un seul geste, nous découvrirons ce qui est dessous. Et ça, c'est le paradis, mon ami.
like a dream. The purring cars and the pouring rain never felt right about it. Never again, 'cause nothing really matters. Nothing really matters anymore. Not even today, no matter how hard I try. When you're standing in the aisle, and oh, baby, nothing.
Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas lui aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose. Le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète, un argue de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, fais-en aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort, alors tranche. Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté par les bouches avides de la gourmandise, de l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'ascèse, même si je dois pour cela subir le supplice du grill de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation, ne prenant pas en compte ma liberté, est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « Perds confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits », la fausse consolation me crie « Espère, car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours ». Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mots d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule. Et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux par exemple marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure? Et quelle misérable consolation qui n'enrichit que les Suisses. Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de toutes au danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit, dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité, si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a de plus proche de la vie? Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau. Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seule sur la terre, je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent? Et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurai pas, confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seule? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois ». Mais qu'est-ce que ce bon conseil, si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard? Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation! pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vraies qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire la vraie, car à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre. Et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave au point de ne pas oser l'employer de peur de l'avoir perdu. De plus, je suis tellement l'esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne de peur de lui nuire. Et lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir, mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu, la capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi-même ensevelie sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe, et dans la dernière poupée se trouve un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un seau dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort. Ils me suivent comme des chiens, à moins que le chien ce ne soit moi. Et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. Mais venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, et la même éternité qui tout à l'heure suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister ?
Say can't get no relief. Living no fear, the constant dedication, keeping the water and power on. There ain't no money left, why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death.
Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux, ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui auparavant ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Ma vie n'est courte que si je la place sur le bio du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et par la même occasion, celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines, il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons, et encore moins nier sa réalité, mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser, je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden. Mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté, en dehors des formes figées de la société? Je suis obligée de répondre, nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même. Mais d'un autre côté, c'est considérable. Car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde. Car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes. Mais le souvenir du miracle de la libération me porte, comme une aile, vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie. C'est-à-dire une raison de vivre.
Vous étiez dans Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Ce soir, vous avez entendu la voix de Carole, qui nous a lu les contes d'Eva Luna, d'Isabelle Allende, et puis une poésie d'Amélie Murat, La rose à la mer. Vous avez entendu la voix de Nathalie, qui nous a lu « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » de Stieg Dagerman. Vous avez entendu des musiques. Vous avez entendu la musique d'In the Mood for Love, Nick Cave, Tom Waits, Alabama Shakes, le chant des baleines. Vous avez entendu, évidemment, comme d'hab, les Who, et actuellement, Ryuichi Sakamoto dans son titre « Merry Christmas, Mr. Lawrence ».
Vous avez entendu la voix de James Fontaine qui vous a lu Christian Bobin, « L'enchantement simple » et Henry Miller, « Le sourire au pied de l'échelle ».
Merci à vous tous, chers auditeurs et chers amis présents dans le studio, vous qui êtes celles et ceux par qui nous vient le seul goût profond de vivre et d'écrire. Prochaine émission.
Le dernier jeudi du mois de mai.
On fera ce qui nous plaît, comme d'habitude.
Voilà.
Car c'est bon pour la santé. Un grand merci à Christophe Becro, à la technique. Et donc, rendez-vous au mois de mai.